Merci Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à Bastia, dans les nouveaux studios de France Bleu à la Citadelle. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Laubert. Il pleut sur Bastia. C'est tristounet. Bah ça tombe bien, j'ai pas envie de rire aujourd'hui, Yvon. Je sais pas, le climat... Non, je parle pas que du temps qu'il fait. Mais le climat après Cisco, le procès qui s'est tenu jeudi, tout ça, là, c'est poisseux, quoi. Comme le temps. Non, mais c'est pas la peine, Yvon, de sortir ton mouchoir. Tu vas pas faire la pleureuse, y a pas eu mort d'homme, cette fois. Non, franchement, c'est ni le moment de rire, ni le moment de pleurer. On a entendu tellement de conneries, là, ces derniers temps. Tiens, d'ailleurs, regarde là-bas, sur le drapeau. La tête de mort. Eh ben, elle reste digne. Malgré son caractère excessif, l'affaire ne prête vraiment pas à rire. 13 heures d'audience, 10 avocats, des journalistes du continent venus en nombre, un jugement rendu à 4 heures du matin. Tout ça donc pour une rixe, selon les mots du procureur. Une malheureuse rixe, comme on en voit parfois en Corse ou ailleurs. Dans la crique de Cisco, en ce 13 août, il n'y avait ni burkini ni armes à feu. Il n'y avait pas non plus de mercenaires d'extrême droite chargés d'en découdre. Juste des petites frappes de Bastia, les frères Benadou, et des villageois chauffés à blanc. Le procès qui s'est tenu ce jeudi à Bastia devait calmer les esprits, replacer les événements dans un climat global et empêcher que Cisco ne continue à servir de faux prétexte à une pseudo-guerre de religion. Il n'empêche, et c'est Corse Matin qu'il écrivait au lendemain de l'audience, l'affaire n'aura fait que 5 blessés, mais causé une fracture bien plus grave dans la société insulaire. On en parle avec nos deux invités, Joseph Maestracci et Florence Antomarchi. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, respectivement président d'Avabasta et journaliste, alors actuellement à France 3 Corse, mais vous avez, Florence Antomarchi, travaillé pour de nombreux titres de la presse écrite, en particulier sur les questions d'immigration. Vous n'étiez pas jeudi, à l'audience, Florence Antomarchi, vous étiez bien la seule, en fait.
Oui, j'étais partie prendre l'air en Italie où j'étais en reportage.
Et de loin, comment vous avez de loin estimé cette ampleur? Tous ces moyens déployés autour de l'audience
Bien, à la mesure de l'ampleur que les faits avaient pris déjà au moment où ça se passait, donc en août. Donc on a un petit peu l'habitude, mais en même temps je pense que c'est des faits qui sont aussi importants et je trouve pas qu'il y ait une ampleur démesurée. On donne une ampleur aux choses et voilà, je pense que ça méritait.
C'est-à-dire qu'il fallait que la justice l'énonce clairement pour que tout le monde en convienne. Ce n'était pas le procès ni du radicalisme religieux, ni du racisme. Il y a une époque, a-t-on entendu Joseph Maestracci, où on aurait parlé d'une bagarre entre Bastia et Cisquet.
Vous savez, moi, je n'ai pas 20 ans. Excusez-moi. Et dans mon village, on se caillassait quand j'étais gosse, quand j'étais jeune, avec le hameau d'à côté. Donc, ce qui s'est passé à Cisquet est un fait divers. Et ce fait divers aurait pu rester fait divers si les médias, je parle de vous, ne s'en étaient pas emparés. Et moi, président d'Avabasta, j'ai dû recevoir tous les médias de France et de Navarre qui venaient chez moi pour me faire dire que c'était un acte raciste.
Ils voulaient vous l'entendre dire ?
Ils voulaient me l'entendre dire. Et certains médias sont partis de mon bureau dépités parce que je leur disais sans tranquillement que le peuple corse n'est pas raciste, mais qu'en Corse, il y a des racistes, comme partout.
Florence Antomarchi.
Alors, Rix, bataille de bagarre de village, sauf que là, c'est deux poids, deux mesures, parce que les Marocains qui habitent à Loupine ou qui habitent en région bastiaise, eh bien, ne sont pas du village. Et donc, tout de suite, ça va donner ce ton-là à l'affaire. C'est-à-dire que on a tous connu, pendant les balles de village ou autre chose, des bagarres, mais c'était à peu près à égalité, parce qu'il y avait le village de Silvaretch, le village de Lorette, ou le village d'Olme, ou le village de Mantes, etc. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, on est effectivement dans une histoire de deux poids, deux mesures. Moi, je sais pas s'il y a eu ce mot de racisme semble énerver tout le monde, mais pour le coup, il y a eu vraiment traitement, inégalité de traitement, comme assez fréquemment dans ces histoires.
Alors, le procureur au procès a cette fois précisé que si les gendarmes n'étaient pas intervenus, Cisco, ça aurait tourné au lynchage. Lynchage, en l'occurrence, des frères Benadou. Est-ce que vous pensez, Joseph Maestrachi, étant donné qu'il n'y a pas été question au tribunal ce jeudi, alors ni de l'expédition punitive menée par une cinquantaine de personnes le soir même des événements dans le quartier du Lupino à Bastia, au cri de « aux armes », de « on est chez nous », il n'en a pas été question en procès, ni non plus des réactions très virulentes sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on s'est trompé de procès ?
Je ne sais pas si on s'est trompé de procès, mais moi je fais la différence entre ce qui s'est passé à Cisco et peut-être que des pères ont perdu raison à un moment donné face à un épiphénomène, mais ce qui se passe au jardin de l'Empereur et ce qui se passe à Lupino, c'est une autre dimension. Quand un groupe de 100, 200, 300 personnes se déplace dans une cité pour aller à la chasse à je ne sais qui en criant au pied des fenêtres « descendez » ou « mort aux Arabes », on est dans un autre cas de figure par rapport à Cisco. Autant je peux comprendre l'émotion qu'a pu susciter une bagarre à Cisco où trois voyous, et en particulier un, ont peut-être provoqué et c'était inacceptable pour les gens de là-bas, autant la marche sur Lubin est inacceptable, et je connais des personnes de Lubin, issues de l'immigration, mais des Corses, puisqu'elles sont nées ici, qui ont vu leurs voisins et les enfants de leurs voisins, qui ont le même âge que leurs enfants, crier sur leurs fenêtres « Les Arabes dehors, on est chez nous, ou peut-être mort aux Arabes ». Et quand je l'ai appelée Sonia pour le média, elle est venue me voir, elle était non pas en larmes, mais révoltée, parce qu'elle avait grandi dans ce quartier. Ses enfants et les enfants de son voisin ont grandi ensemble, sont allés à l'école ensemble, sont allés à la mer ensemble, sont allés au judo ensemble, ont joué au ballon ensemble et ont joué dans la rue ensemble. C'est inacceptable de les entendre dire « mort à toi ».
D'autant qu'on précise que ses frères Benadou n'étaient absolument pas du quartier de Lupino, Florence Antomarchi.
Oui, justement, pour réagir sur la place des médias, je pense que les médias, nous, médias locaux, on a rendu compte de des faits d'une manière très aléatoire, sans vérification beaucoup des faits. Donc on a laissé croire, effectivement, un certain nombre de choses sans les vérifier. Et du coup, la marche, par exemple, sur Lupino s'est faite parce qu'il a été dit que les gens habitaient là-bas. Donc ça fait partie aussi de la montée en pression. Hein. Et ça devient un modus operandi parce que, pour comparer avec ce qui s'est passé au Jardin de l'Empereur, c'est-à-dire que maintenant, non seulement on va défendre les nôtres, mais aussi on fait de l'autodéfense.
Hein. Jardin de l'Empereur, voilà. Il faut rappeler, 25 décembre, à Ajaccio, après que des pompiers ont été agressés.
Une voiture de pompiers caillassée, pas les pompiers eux-mêmes, hein, la voiture de pompiers. Et ensuite, une marche de soutien le lendemain matin, une délégation de soutien devant la préfecture aux pompiers, à la voiture de pompiers et aux pompiers agressés. Et ensuite, une marche pendant 3 jours dans les quartiers où il y a une population immigrée importante, mais pas seulement, en tout cas dans 3 quartiers différents, pour dire Arabifora, qui veut dire donc les Arabes dehors, et puis effectivement on va vous tuer, descend voir si t'es un homme, etc. etc.
Alors vous, Joseph Maestrachi, vous voulez vraiment dire que pour vous, Cisco, c'était une bagarre comme il y en a tant d'autres, sauf que l'un des prévenus, donc Mustapha Benadou, considéré comme le meneur, le caïd, comme a dit le procureur, a écopé de 2 ans ferme. Et personne n'a commenté, c'était une manière de préserver la paix sociale. 2 ans ferme pour une simple bagarre.
Peut-être, sauf qu'il a un passé judiciaire assez lourd et que peut-être que le...
Conduite en état d'ivresse.
Conduite en état d'ivresse.
Et trafic de stupéfiants, mais pas...
Oui, ouais. Et que ce n'est pas un saint, on va employer cette expression un peu courante.
On a l'habitude
quand on a un harpon à la main, ça peut laisser penser qu'il a pu s'en servir comme arme. 2 ans pour une rixe qui n'a pas fait de blessés graves, puisqu'ils sont tous sortis rapidement de l'hôpital, ça paraît lourd. Peut-être que c'est pour la paix sociale, peut-être. Mais bon, je ne vais pas pleurer sur les voyous, le problème n'est pas là. Les trafiquants de drogue, je suis un militant anti-drogue depuis 40 ans, ce ne sont pas mes amis. C'est pas sur cela que moi je veux m'attarder, même si tous les dérapages qu'il y a eu viennent de là.
Une dernière chose sur ce procès, les habitants de Tisco ont écopé de sursis avec mise à l'épreuve pour violence volontaire entraînant une incapacité de plus de 8 jours. Alors avant le procès, ici à Bastia, on disait s'il n'y a ne serait-ce que du sursis, ça va enflammer les foules. Mais pour l'instant, Florence Santomarchi, tout est resté très calme à l'heure où l'on parle à Bastia, c'est-à-dire vendredi soir, puisqu'on a enregistré cette émission.
D'accord. D'abord, Julie, effectivement, ce n'est pas les habitants qui ont pris du sursis, c'est les deux personnes donc, qui étaient mises en cause. Là aussi, à chaque fois, c'est des... On par facilité de langage, mais c'est donc deux personnes qui ont effectivement maltraité, donné des coups, etc. Donc pour l'instant, en effet, pas de réaction. On avait dit qu'effectivement, moi j'avais entendu juste après Cisco que s'il y avait des condamnations pour les deux personnes, les deux habitants de Cisco, eh bien il y aurait des réactions très très fortes. Voilà, donc peut-être qu'il est encore un peu tôt, on verra bien.
Alors, on n'entend pas beaucoup les Corses issus de l'immigration maghrébine à titre individuel. Je veux dire, et dans Sur la route, on avait envie de s'arrêter quelques instants auprès d'eux. C'est la première fois que vous venez ici, Mounir Ghazali ?
Oui, c'est la première fois. Écoutez, aujourd'hui, ça fait 47 ans, jour pour jour, que mon père a foulé ses premiers pas sur l'île. C'était en 69. Et voilà, c'est un endroit qui me remplit d'émotion.
Une toute petite gare, c'est par là qu'il est arrivé, votre père ?
Oui, il a débarqué d'abord à Bastia. Et il s'est arrêté à aucun arrêt et il s'est trompé et il est allé jusqu'à Ajaccio. Quand il est revenu, son employeur qui était censé venir le récupérer était reparti et il a été reçu par une restauratrice qui lui a offert le couvert et qui a rappelé son employeur.
Donc il était attendu par un employeur, votre papa ?
Exactement, il est venu dans le cadre d'un contrat de travail dans le domaine du bâtiment. Il était manœuvre, il est venu seul. Le reste de la famille l'a rejoint en 72, 3 ans après.
Et vous avez rejoint tout le monde en naissant ici en Corse, il y a combien d'années maintenant ?
39 ans, en mai 77.
Aujourd'hui, Mounir Ghazali, vous êtes à la tête d'une entreprise. Vous êtes celui qui a réussi. C'est une manière de vous présenter qui devient gênante pour vous ?
Alors, elle devient gênante d'une part parce que je ne suis pas un cas isolé. Aujourd'hui, en Corse, il y a un phénomène nouveau, d'une nouvelle génération qui travaille, qui sont respectueux, j'aime pas cette expression, mais qui sont très bien intégrés et qui sont les premières personnes qui sont très affectées par ce qui peut se passer, dans la mesure où ils ne se reconnaissent pas à la fois dans certains événements comme ceux de Cisco ou comme ceux, par exemple, des Jardins de l'Empereur, mais par contre, ils se sentent tout de même concernés lorsque on insulte l'ensemble d'une population et qu'on fait finalement cet amalgame. Aujourd'hui, on ne se définit finalement que de la manière dont on nous définit. Et la manière dont on nous définit, c'est effectivement souvent très lié au faciès, au nom de famille. On est étranger. Je suis né ici, mes parents ont fait le choix de venir vivre ici. Moi, j'ai fait le choix d'y rester. Je me considère aujourd'hui effectivement comme Corse, de confession musulmane, n'appartenant pas justement à une communauté, mais souhaitant appartenir, ou du moins mes enfants appartenir à une communauté de destin.
Cette notion de communauté de destin, qui est assez chère d'ailleurs au pouvoir nationaliste en place, vous la faites vôtre ?
Complètement, complètement, dans la mesure où la communauté de destin, elle donne beaucoup d'espoir parce qu'elle se construit sur un socle de valeurs communes qui sont des valeurs de solidarité, de famille, de générosité, d'accueil. Ce sont finalement des valeurs qui sont très similaires aux valeurs méditerranéennes que portent mes parents.
Vous avez vous-même des affinités avec le nationalisme corse ?
Les affinités que j'ai avec le nationalisme corse remontent à mon père qui, quand il est venu travailler ici, il est venu chez son premier employeur, était un nationaliste. Et donc mon père, lui, l'analphabète, lui qui venait d'un milieu agricole, pastoral, a retrouvé beaucoup de similitudes avec son employeur. Ils ont beaucoup échangé. Et donc la vision qu'il a, lui, du nationalisme, c'est celle dont j'ai hérité moi-même, qui est une démarche pacifiste qui tend à protéger une culture, une langue.
Et alors, comment se définir soi-même quand on est justement, encore une fois, d'une identité multiple et qu'on vit sur une île où cette identité corse est si forte?
Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il est très facile d'être corse pour certains et il est impossible pour d'autres. On peut vivre 40 ans, peut-être même, oui, y être né et puis être là depuis plusieurs générations et ne jamais le devenir, comme on peut arriver au bout d'une semaine le devenir. Être corse, ça ne s'explique pas, ça se vit, tout simplement.
Est-ce que votre père aurait dit « je suis corse » ?
Mon père ne l'aurait pas dit, il ne l'aurait jamais dit. Il était vraiment un vrai Marocain, un vrai étranger, mais il savait que je serais moins un Corse s'il m'appelait le Corsé, ça veut dire le Corse en arabe. Et c'est vrai que lui, il avait tous les symptômes du mal intégré, mais il n'en avait pas la maladie. C'était quelqu'un qui nous poussait à s'intégrer et à s'assimiler à la Corse.
Est-ce que vous avez appris le Corse ?
Je parle très mal. Mon fils est en classe bilingue et j'espère que lui le parlera et m'aidera. Alors je continue à l'apprendre encore un peu, mais ça, c'est une histoire de génération.
Sur la route de l'identité corse, avec des guillemets. Nous sommes dans les studios de France Bleu Fréquence Mora avec nos deux invités, la journaliste Florence Santomarchi et Joseph Maestracci, président de l'association Ava Basta, dont je n'ai pas précisé au début de l'émission que c'était cette association antiraciste fondée dans les années 80, en 1985. Qui aurait pu s'imaginer dans les années 80, alors que se multipliaient les hostilités, voire les exactions contre les travailleurs immigrés, Joseph Maestracci, qui aurait pu s'imaginer que leurs enfants participeraient bientôt à la construction du peuple corse ?
Mounir en a très bien parlé. Mounir, c'est un ami, c'est un vice-président d'Ava Basta, chargé de la côte orientale, là où se construit la vie, là où se pétrit la pâte. Donc Mounir, c'est un pur produit de cette communauté de destin, mais il est modeste, Mounir. L'intégration, je n'aime pas le mot,
lui non
la
plus.
La fusion, cette nouvelle patte qu'il lève, pose problème quand ce sont des Arabes et quand ce sont des musulmans. Certains migrants qui sont arrivés hier, leurs enfants, on ne dit pas qu'ils sont issus de l'immigration. Et avec tout le respect que je lui dois, je ne pense pas qu'on parle des enfants du Premier ministre, des enfants issus de l'immigration. Voilà. Donc c'est l'islam qui pose problème à cette société en oubliant que cette île a intégré, a reçu, a fait sien des gens qui sont arrivés avec une autre religion. Et je veux parler des Juifs.
Florence Santomarchi, elle vient d'où cette expression « communauté de destin », cette ancienne que Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée Corse, invoque à tout propos?
Alors, la communauté de destin, elle a été avancée en fait par le mouvement nationaliste, je ne sais plus si c'est en 83 ou 85, au moment où il y a eu l'assassinat par le FLNC d'ailleurs de deux Tunisiens au faux prétexte qu'ils étaient trafiquants de drogue. Ce qui va créer un émoi que vous pouvez imaginer parce qu'on est en plus à l'époque, il y a toujours derrière un climat et qu'à ce moment-là, il y avait la montée du Front National en France, ben, souvenez-vous, 80, 82, 83. Et donc, à ce moment-là, le FLNC fait cette opération, assassinat de Tunisiens au prétexte, donc annoncé qu'ils étaient trafiquants de drogue, dans une espèce de mouvement anti-drogue. Et puis ensuite, ils diront, ben non, c'est pas vrai, on s'est trompé. Il y a eu un mouvement à l'intérieur des sympathisants nationalistes pour pousser à des explications, clarifications sur ce geste. Et le FLNC sera obligé de dire qu'il avait été mal renseigné, ce qui est un peu... Et à ce moment-là, ils vont avancer. Mais ce qui voulait dire qu'il y avait des pressions, de toute manière, de droitières, extrême droite, racistes, hein, dans ce mouvement nationaliste. Et qu'à ce moment-là, le mouvement nationaliste va avancer la notion de communauté de destin pour dire le peuple corse. Il y a les Corses d'origine, les Corses d'adoption, hein, c'est pour reprendre ces termes. Hein, Giuseppe, je pense que je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, la communauté de destin va être là pour dire... On vit ensemble et on adopte. Alors, cette communauté de destin, ce concept-là, a été remis en question. Et très récemment, en 2014, Denis Loutianif, qui est nationaliste, qui fait partie de Femo Agorsica, qui est membre de l'association, qui est président de l'association des parents d'élèves à Sochi di Parenti Gorsi, a remis en cause en disant il faut revenir au droit du sang, le droit du sol, la communauté de destin, ça, c'est le droit du sol français, ce n'est pas notre tradition politique. Voilà.
C'est vrai que Joseph Mestrachi, il y a au sein du mouvement nationaliste une certaine frange qui dit que cette communauté de destin, c'est une notion fumeuse adoptée par le mouvement nationaliste à la fin des années 80 sous pression de Paris. J'ai lu dans une tribune de deux militants sur Internet, bien sûr, parce que ça s'est quand même déchaîné après Cisco.
Ça se déchaîne beaucoup sur les réseaux sociaux.
Mais pas seulement. Pas seulement, parce que la tribune
seulement.
De Denis Loutianif, oui, elle était dedans encore ce matin,
pas
et
seulement,
est membre
pas seulement.
Éminent du mouvement nationaliste.
Et pour reprendre ce qu'a dit Florence, c'est à cette période qu'est née Awa Basta, le collectif antiraciste de Corse, porté par une quarantaine de personnalités de l'île, de toutes opinions et de toutes confessions. Le seul lien, c'était l'antiracisme. Et l'idée de communauté de destin aussi. La remise en question de la communauté de destin, qui est récente, et ça me pose un problème. Quel message veut-on faire passer à nos enfants, aux enfants de Corse? Parce que tous les enfants de Corse sont des Corses, puisque... Ce sont des enfants qui grandissent ici. Quel message veut-on faire passer quand on leur dit qu'eux ne sont pas corses, mais que les Corses qui ont quitté la Corse il y a 3 siècles sont toujours corses parce que le sang.
Et entre parenthèses, même le prévenu principal de Cisco, Mustapha Benadou, a dit pendant le procès, en parlant du jeune Cisquet qu'il avait pris en photo et traité, dit-il, de sale arabe, eh bien il a dit « je suis plus corse que lui ». Ben oui, je suis né en Corse et je suis né avant lui, donc je suis beaucoup plus corse que lui.
Et c'est une réalité qu'il est plus corse que lui.
Mohamed Jouablia, vous avez donc été de nombreuses années avec votre épouse en Tunisie, opposant politique. L'histoire est longue à raconter, mais vous êtes arrivé à Marseille et puis vous êtes arrivé en Corse parce que votre épouse y avait trouvé du travail. Vous avez fondé ici, à Ajaccio, l'association populaire des Tunisiens de Corse. Vous êtes combien d'adhérents ?
On a commencé presque avec vers les 80 personnes. On avait des objectifs, surtout, par exemple, on veut créer une ligne maritime entre la Corse et la Tunisie. Et parmi les objectifs aussi de l'association, c'est essayer de mieux intégrer cette communauté tunisienne dans, là où ils vivent. Et on a beaucoup avancé parce qu'on travaille aussi avec des amis corses qui sont aussi adhérents et membres de l'association.
Alors, est-ce que vous leur apprenez à s'intégrer, comme vous dites, en France ou en Corse ?
Nous, on a s'intégrer au milieu, là où ils vivent, parce que les lois, ça ne change pas. Les lois, soit en France ou en Corse, c'est la même chose. Les lois de la République, ça s'impose partout.
Est-ce que vous encouragez les adhérents de l'Association populaire des Tunisiens de Corse à parler corse?
Oui, pourquoi pas? Parce qu'il est déjà enseigné, il est à l'école, et même ces gens qui se disent musulmans et tout, la religion musulmane et Mahomet, il incite les gens à apprendre des langues. Parce que lorsque tu apprends une langue, tu peux comprendre l'entourage là où tu vis. Tu peux le comprendre et tu peux vivre mieux avec.
Mohamed Jouablia, avec l'association, vous avez donc plusieurs projets en cours. Une semaine de festival de cinéma maghrébin, une exposition sur le voile, voilement et dévoilement, des conférences. Tout ça, vous l'avez mis en place après les événements d'Ajaccio, les événements de décembre, qu'on a appelés des Jardins de l'Empereur. Est-ce que vous y étiez dans ce quartier-là, ce soir-là?
Oui, c'est la société ici, à l'association, où j'ai vu pas mal de gens, hein, des centaines, hein, qui défilaient dans la cité. Et ils sont passés devant chez nous, mais ils ne m'ont rien dit, quoi. J'étais là.
Ils ne vous ont rien dit personnellement à vous. Ceci dit, les slogans sont visibles sur toutes les photos. Ils les criaient « Arabi Foura », les Arabes dehors. Est-ce que vous vous êtes senti interpellé?
Sûrement. Sûrement, bah, des slogans comme ça. Moi, je les ai vus même avant. C'était inscrit sur les murs et tout. Et ça me fait mal au cœur. Parce que moi, je voudrais savoir pourquoi ce Arabi Foura. Ben, l'Arabi ne va pas s'approprier de la Corse, non. Il est venu, selon des conventions, selon des trucs, il est venu juste pour travailler, pour améliorer une situation sociale, et c'est tout. Il ne va pas, comment dirais-je, imposer ses lois ou ses traditions ici. Non, il vivait avec tout le monde et il devrait quand même respecter tout ce qui est à son entourage. Mais lorsqu'on voyait des gens qui criaient « Arabi Foura », on se pose la question, mais pourquoi?
Après les événements de la crique de Cisco, et après un communiqué qu'a publié le FLNC du 22 octobre, donc une branche du nationalisme corse, une branche minoritaire, vous avez voulu réagir sur un point du communiqué, à cette phrase « Sachez que toute attaque contre notre peuple corse, connaîtrait de notre part une réponse déterminée sans aucun état d'âme ».
Moi, j'ai voulu répondre sur ça parce que le mot « peuple », on se considère, hein, on faisait partie de ce peuple corse. Jusqu'à ce jour, lorsque je me gare mal garé, je prends une amende, je fais partie de ce peuple corse. Pour ne pas dire aussi qu'il y a des gens qui sont nés ici et qui sont des petits Corses aussi. Et donc, cela m'a beaucoup touché, hein, parce qu'on se dit, voilà, c'est comme on fait appel à ce Daesh, venez, s'il vous plaît, faites quelque chose ici pour trouver l'excuse de faire mal à ces Arabes. Pour moi, c'est une perche tendue à Daesh, les fous d'Allah, pour qu'ils viennent faire quelque chose.
Mohamed Jouablia, est-ce que vous croyez en cette communauté de destin de la Corse?
Moi, je l'appelle plutôt communauté d'avenir.
Intéressant, Florence Antomarchi, de voir que l'Association des Tunisiens de Corse a souhaité réagir à ce communiqué du FLNC du 22 octobre, publié après Cisco, qui s'adresse aux musulmans de Corse, aux islamistes de Corse et à l'État français. Est-ce que c'est lui donner trop d'importance à ce communiqué? Il représente qui aujourd'hui le FLNC du 22 octobre?
D'abord, le communiqué de ce groupe, donc dit du 22 octobre, a été publié juste après l'attentat de Nice, donc dans un moment de grande émotion. Il y a des liens particuliers entre Nice et la Corse, puisque beaucoup d'étudiants, avant qu'il y ait la création de l'université de Corse, les étudiants allaient à Nice. Donc voilà, il y a eu une émotion très très forte comme partout sur le continent, en Corse également. Et le communiqué, l'importance a été donnée par Corse Matin, puisqu'en fait, 3 pages entières ont été consacrées à ce communiqué, dont la première avec le titre incroyable « Daesh, la riposte ». Et c'était d'ailleurs même assez cocasse, enfin ça peut être assez cocasse, hein, parce que qu'est-ce que c'est que ce mouvement du 22 octobre qui va dire « Daesh, attention voilà. ». Attention, si vous faites quelque chose, nous, on ne va pas se laisser faire, ce qui est quand même totalement ridicule. Mais enfin, il y a eu 3 pages donc, dans Corse Matin pour expliquer sans aucune distance, parce qu'on a eu l'habitude des mouvements clandestins qui ont dit, moi je me souviens au début des années 80, c'était 90, attention la mafia, si la mafia vient en Corse, nous on ne laissera pas faire, on voit ce que ça a donné. Donc voilà, ce genre de volonté de s'ériger comme les protecteurs de l'île, ben, voilà. C'est sans doute pour ça que l'association des Tunisiens a voulu répondre, parce qu'il y avait un appel aussi, il y avait à la fois un appel dans ce communiqué aux musulmans de Corse en disant c'est pas contre vous qu'on en a, mais en gros quand même donnez-nous, il y avait aussi un appel à la participation, à la petite, alors on peut appeler ça du signalement ou de la délation comme on veut, mais donc que vous musulmans nous disiez qui sont les musulmans qui ne sont pas des bons musulmans, etc. etc. Enfin voilà, c'était un communiqué dont l'exégèse reste à faire.
Florence Antomarchi, est-ce qu'on a une idée de la menace djihadiste en Corse, puisqu'elle a été brandie dans des tribunes, dans des articles?
Effectivement, des tas de rumeurs ont couru sur des menaces djihadistes, alors que systématiquement, l'État dit bah non, il n'y a pas de menace, il y a eu des interpellations administratives, etc., et qui n'ont rien donné.
Mais pas seulement des rumeurs, l'Assemblée de Corse a organisé un débat après les attentats de Nice, d'ailleurs c'est à ma connaissance la seule Assemblée régionale qui l'ait fait, et a adopté une résolution qui stipule que la Corse est particulièrement exposés et demandent entre autres la fermeture immédiate des lieux de culte ou de réunion constituant des foyers de radicalisation avérés. Donc il y en a?
Eh bien non, enfin qui croire? Pour l'instant aujourd'hui, donc c'est l'État qui est responsable de ces politiques de surveillance et de prévention. Donc, en effet, il y a eu des rumeurs et il y en a depuis un certain nombre de temps, des rumeurs qui agitent la société corse. À chaque fois, l'État dit non, ces rumeurs sont infondées. Mais comme on est dans une suspicion de l'État, hein, on rappelle quand même qu'on vit en Corse avec une suspicion sur la justice française, sur l'État français, sur le fait que l'État va nous protéger. Donc non, tout ça fait un mélange et donne effectivement un terrain favorable à l'exploration de rumeurs tout à fait qu'on ne peut pas vérifier. Donc du coup,
vous pensez, Joseph Maestracci, que c'est cette peur du radicalisme, des attentats, de l'infiltration qui a dispensé la Corse d'accueillir des migrants? On l'a appris cette semaine, hein, toutes les régions françaises accueilleront des migrants, sauf la Corse et l'Île-de-France.
J'ai communiqué sur cette information et j'ai communiqué un peu en colère, parce que là aussi, on stigmatise la Corse. Dire que nous ne pouvons pas recevoir de migrants, étant donné l'ambiance qu'il y a aujourd'hui en Corse, moi je me sens insulté.
Ça n'a pas été dit explicitement. Oui, et Gilles oui, Simoni dit qu'on ne l'a pas du tout consulté. Hein.
Lui, non.
J'ai une question, oui. Yazep. Parce que moi, je me souviens l'année dernière, oui. Quand il y avait eu d'ailleurs oui. François Tati qui avait dit à la question des oui. réfugiés, il faudra oui. que la Corse oui. prenne sa part. Oui. À ce moment-là, il y avait eu toute une campagne oui. anti-réfugiés, des manifestations, je pense que là aussi, on avait le record. Donc, manifestation à Ajaccio, à Bastia, où il y avait 200, 300 personnes, alors qu'on potentiellement, il était question que la Corse accueille peut-être 5, 6 réfugiés, hein, vu au prorata des réfugiés qui devaient arriver en France, et que sur cette base-là, ensuite, il me semblait même que tu m'avais dit que la préfecture avait demandé à chaque commune de faire remonter ses capacités d'accueil, et que tu m'avais dit tout à fait désespéré, il y a zéro volonté d'accueil dans les communes, dans les 360 communes corse, sauf une, je crois.
Je crois qu'il D'accord. y a une commune oui. qui a accueilli.
Il y a une commune, et c'était
Tenez.
Des Syriens catholiques. Donc c'est peut-être pour ça que l'État dit finalement il n'y a pas de possibilité d'accueil en Corse.
Quand Monsieur Tati a dit que on pourrait recevoir des migrants, ou des réfugiés, pardon, pas des migrants. Il y a eu cette levée de boucliers, mais tu viens de le dire.
Septembre 2015.
C'est une histoire de 200 ou 300. Après, ah oui. il y a le peuple. Je citerai un Lutzink, un habitant de Lutz, qui a mis sa maison en disposition. Charles Benke, qui est membre d'Avabasta, à Vescovato, qui a mis sa maison à sa disposition. Et le maire de Lutz, qui a mis un appartement à disposition de migrants qui pourraient arriver.
Giuseppe Maestracci, est-ce que tu me confirmes cette information comme quoi les communes avaient dit qu'elles n'avaient aucune capacité d'accueil pour les réfugiés?
Non.
À part trois.
Je ne peux pas confirmer ça. Les communes n'ont pas répondu. Et c'est inacceptable qu'elle n'ait pas répondu. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que les réfugiés qui arriveraient en Corse demain seraient en difficulté chez nous. Et s'il y a un endroit où les réfugiés doivent être en difficulté, c'est là où le Front National fait 48%.
Alors ça rappelle Giuseppe Maestrachi.
Il fait 25% chez nous en Corse, Giuseppe.
Voilà, ça rappelle ce que disait le texte fondateur d'Ava Basta en 1985, parce que la Corse est un rivage écartelé entre le nord et le sud, parce que sur ce rivage se sont échoués comme les vagues au cours des siècles, les peuples de la Méditerranée tout entière. Daniel Mahouj, est-ce que vous vous rappelez ce jour où vous avez choisi de vous installer ici, à Bastia, dans le quartier de la Citadelle ?
Je ne sais pas si je peux dire que j'ai choisi. J'ai appris que ma maman avait un cancer et qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Donc, je n'ai pas réfléchi. Je suis venue l'accompagner.
C'est par votre mère que vous êtes corse?
Comme les mères juives. Mon père était kabyle, de nationalité française. C'est par les deux. Ma mère, peut-être... par la langue, puisqu'elle me parlait corse, je parle le corse. Donc je me suis vraiment inscrite dans une réalité culturelle.
Alors vous vous êtes assez tôt interrogée sur cette question de l'identité. Vous qui, en 96, dans Mon Désorient, parlez de votre identité corse avec des musiques intérieures kabyles algériennes, une citoyenneté française et une conscience méditerranéenne. Aujourd'hui, Daniel Mahouj, vous n'avez pas envie de parler de tout ça. Vous n'avez pas envie de parler de votre passé, de vos racines, pour inscrire votre discours dans votre histoire personnelle?
Non, j'ai plus envie d'en parler, parce que d'abord, j'ai fait du chemin, j'ai avancé dans le temps, et que j'ai pas envie d'être prise au piège des racines, surtout pas, parce que d'abord, les racines, c'est dans la terre, ça voit pas la lumière, et qui plus est, en fait, mes engagements s'inscrivent dans une réalité sociale, et c'est pas seulement mon histoire, sinon je serais dans le pathos. Je n'ai pas besoin de signes ostentatoires pour prouver que je suis corse. D'ailleurs, j'aime pas tellement les drapeaux, parce que les drapeaux, ça cache toujours une réalité. Les gens s'enveloppent dans des drapeaux, pour, comme ça on masque les problèmes sociaux, les inégalités. On fait vibrer les tripes. Et il faut arrêter de brandir les identités meurtrières, comme le disait Amin Malouf.
En fait, on vous sent blessé par ce qui s'est passé à Cisco et surtout toutes les réactions que ça a engendrées.
Je suis profondément triste. On est un peuple métissé. Enfin, c'est une île. Dans une île, les gens arrivent et partent, ils se marient, il y a des alliances. Et puis, il n'y a qu'à voir les physiques. Ça va du... Ma mère était blonde aux yeux bleus jusqu'au teint maure. On est dans l'absurde de dire, comme certains le préconisent, qu'il faut rejeter le droit du sol français pour le droit du sang corse, qui est notre conception historique.
Les chefs nationalistes au pouvoir n'ont de cesse d'appeler au calme, de dire que le racisme n'a pas sa place en Corse, que tout ça finalement n'est que le fait de groupuscules d'extrême droite avec une idéologie importée du continent.
Bon, d'abord, je n'aime pas le mot chef. Moi, j'ai pas de chef. disons, les élus. Les deux présidents, effectivement, ils ont calmé le jeu. Mais il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a une recrudescence active depuis leur élection dans le nationalisme. Et quel que soit le nationalisme, il y a surtout de l'exclusion. Malgré qu'il se présente comme un nationalisme d'ouverture, mais il ne faut quand même pas oublier le passé. Il y a quand même eu beaucoup de Marocains qui ont été tués. Des Tunisiens qui ont été tués en 86 au nom du FLNC. Les Marocains n'étaient pas acceptés dans des bars, dans des lieux publics. Tout ça, nous l'avons vécu. Donc, il y a tout un travail à faire sur cette mémoire pour justement pouvoir aujourd'hui accepter ces enfants pour que ces jeunes issus de l'immigration soient gratifiés aussi et pas seulement humiliés. Et pour pouvoir construire l'avenir. Cultiver la haine, c'est condamner l'avenir.
En 1987, dans Mes deux montagnes, vos deux montagnes qui sont celles de Tizi Ouzou en Algérie, celle de votre père, et celle de Tsonza en Corse, celle de votre mère, vous écriviez « Aujourd'hui, je suis capable de partir ». C'était en 87. Aujourd'hui, vous êtes toujours révolté, mais vous êtes resté.
Écoutez, je suis très amoureuse de Camus. La révolte, c'est être vivant. Et je crois que je suis peut-être trop vivante pour ceux qui sont dans une pensée de l'ordre. Moi, j'ai la chance d'avoir hérité justement d'une mère et d'un père libres. Parce qu'en 46, épousée un Algérien, plus je avance dans le temps, plus je me dis que ma mère avait beaucoup de courage. À la maison, j'avais toujours des débats. C'est pour ça que je suis habituée aux débats. Et ici, on en est privé. Parce que si vous n'êtes pas pour, vous êtes contre. Alors que, ben non, on discute. Et après, c'est... Voilà, j'ai des convictions, mais si vous arrivez à me convaincre... Mais ça, c'est difficile. On n'est pas, on n'a pas encore cette tradition du débat. Mais c'est peut-être normal aussi. La Corse n'a pas connu la période d'industrialisation. Elle a été meurtrie dans son histoire. Il y a eu 14-18... Beaucoup sont partis dans les colonies. Il y a quand même eu 100 000 Corses en Algérie. Donc c'est une histoire quand même douloureuse, compliquée. C'est pour ça que faut ne pas avoir un regard non plus manichéen comme certains médias parisiens l'ont. Et ça nourrit les deux côtés, les extrêmes. C'est vrai que la Corse, on est, pour la France continentale, nous sommes le dernier Orient de France. Et en Corse, il y a encore de la nature. On est sauvage. On a encore des mœurs agrestes. Donc, le Parisien a toujours un regard exotique sur la Corse et les Corses. Hein. On est toujours près de Prosper Mérimée.
C'était déjà le cas, je crois, à la fin du 19e siècle, quand l'État français avait envoyé un émissaire en Corse et qu'il avait écrit dans un rapport que vous citez de temps en temps, que vous avez plaisir à citer. Ouais. Il écrit quelque chose comme « Ces Corses dans leurs montagnes, c'est un peu comme les Arabes dans le désert
».
Et vous d'ajouter... On est toujours le bougnoule de quelqu'un.
Oui,
tout absolument. Dépend de la latitude.
Oui, vous avez bonne mémoire. Absolument. Donc, je crois qu'il faut déconstruire les représentations, que ce soit de la part des Corses envers les autres, que ce soit les Marocains ou les Tunisiens ou les Algériens, et la France continentale vis-à-vis des Corses. Parce que quand même, ils sont en train de balmer. Hein. Là, j'ai vu... J'ai eu quelques échos de BFM et puis d'autres, bon, je dirais les noms, parce que... Mais je trouve ça quand même consternant. Ils ne nous aident pas à avancer, au contraire. Ils enferment les plus réactionnaires dans leurs idées mortifères.
Alors Daniel Maoudj, comme d'autres personnes en Corse que l'on entend moins, c'est vrai, fait aujourd'hui un lien entre la victoire nationaliste en décembre dernier, victoire à la faveur d'une triangulaire, et la libération d'une certaine parole. Alors je me tourne vers vous, Joseph Maestrachi, qui, je crois, ce n'est pas un secret, partageait certaines convictions nationalistes. Comment est-ce qu'on défend à la fois les idées de tolérance et d'ouverture qui sont les vôtres, et qui sont aussi, en tout cas, il était venu les mettre en avant sur cette même antenne en février, celle de Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, et celle d'une identité corse qu'il faut à tout prix protéger.
J'ai écouté avec plaisir Daniel, et avant de répondre à votre question, je voudrais lui dire que ces deux montagnes ont des racines communes, si les montagnes peuvent avoir des racines, et je n'aime pas les racines.
Vous non
plus. Parce
que
je suis allé à Philitos et il y a des menhirs, j'en ai arraché un, aux surprises, il n'a pas de racines. Voilà. Mais Djurjura et Diarione, dans mon village, veulent dire la même chose, veulent dire pierrier, veulent dire pierrier chez moi et là-bas. Donc ces deux montagnes ne font qu'une. Après, si on veut parler de nationalisme, je n'aime pas le mot non plus, il faudrait parler des peurs. La Corse a été... Quelqu'un a dit, et j'ai aimé l'image, la Corse est une femme violée qui hurle chaque fois qu'on la touche. Et peut-être qu'à Cisco, elle a hurlé aussi. Peut-être qu'elle a hurlé aussi. Donc elle a été niée dans son histoire, dans sa langue. Donc le nationalisme, on le met de côté. Mais le fait que nous ayons donné le pouvoir, petit pouvoir, à un groupe qui se revendique du nationalisme, a été perçu par certains comme une victoire de ces idées-là de nationalisme. Et ils ont pensé que le grand jour était arrivé et donc que leurs idées de rejet de l'autre étaient aujourd'hui validées par le peuple. Or, le peuple n'a pas validé cela.
Florence Antomarchi.
Oui, d'abord, moi, je voulais effectivement réagir à cette idée d'une Corse femme violée qui est vraiment un je ne sais pas par qui, etc. Mais c'est vraiment une imagerie, moi, qui m'inquiète beaucoup. D'une part, il y a effectivement toujours dans l'imagerie l'idée du territoire corse comme celui du corps d'une femme, d'une mère. C'est souvent quelque chose qui appartient à l'imaginaire des hommes. Moi, je ne sens pas mon territoire comme celui d'une Corse femme violée et je ne sais pas par qui. Donc, je m'inscris en faux là-dessus.
Après, est-ce que vous pouvez comprendre cette logique de soutien dans une société de proximité qui a été brandie, notamment quand on a voulu défendre les villageois de Cisco qui se défendaient?
En tout cas, la question de l'identité pose aujourd'hui, je pense qu'il y a une question qu'on doit se poser. C'est comment, avec l'idéologie de l'identité dont nous sommes baignés, on peut répondre aux défis de l'égalité des uns et des autres, des uns avec les autres, et de l'un et de l'autre. Par exemple, sur la question de Cisco, il a fallu des journalistes de Paris pour interviewer les Marocains. Et ça, pour moi, c'est un signe, il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, enfin, les journalistes de Paris se sont fait avoir aussi par un Marocain qui a raconté une version erronée.
On a
la presse locale, vous voulez dire ?
Oui, la presse locale, on a parlé des machettes, etc. Dans ce cas-là, quand on filme à chaud, quand on est à chaud dans un fait divers, on va se faire avoir. Mais autant se faire avoir des deux côtés. Parce que, du coup, on est nous aussi piégé dans cette conception d'une idéologie de l'identité où on sait que la solidarité en Corse, elle joue avec son semblable. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, à mon avis, c'est la solidarité avec l'autre.
Joseph Mestracci, on arrive à la fin de cette émission. Oui. L'Assemblée de Corse a voté fin juillet l'organisation prochaine d'un grand débat de fond avec l'ensemble de la société civile pour réfléchir à ce que veut dire être Corse et à la façon dont se construit le vivre ensemble. Ce sont ces mots. D'ailleurs, entre parenthèses, dans la matière, n'a pas de leçon à recevoir du continent. Les politiques d'intégration n'ont pas marché non plus. Joseph Mestracci, vous sur le terrain avec Ava Basta, comment vous pouvez travailler sur ces questions-là ?
Le 6 août, Ava Basta a appelé à un rassemblement, à une marche, en réponse à ce curé qui avait été égorgé et à cette émotion.
Jacques Abel à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Voilà. Et pour la première fois en Corse, c'est une grande première, des Corses d'origine arabe ou arabo-musulmans, se sont montrés, parce qu'on leur reproche toujours de ne pas sortir. Ce jour-là, nous étions à égalité. Alors, nous étions 250, on est descendus. Les médias corses locaux n'en ont pas parlé. Très peu parlé. Depuis est née l'idée de mettre en route des liens entre des gens qui ont du mal à se côtoyer, qui ont du mal à se parler. Et on a ce collectif est né, il s'appelle les messagers de la paix. Ces messagers de la paix, Ibadjir et Bébia, d'où sont nés, et nous avons beaucoup d'espoir en cela, parce que ça a eu un écho. Il y a des gens qui viennent. Hier est rentré quelqu'un dans mon bureau pour dire « je viens m'inscrire à Ibadjir ». Ces Ibadjir porteront la paix et mettront en communication les gens qui ne se parlent pas et qui ne demandent qu'à se parler. Et dans ces Ibadjir, nous sommes très mixtes, dans toutes les mixités. Latin, arabo, jeune, vieux, femme, homme, voilé et pas voilé.
Pour conclure sur cette question de l'islam, c'est Jean-Pierre Chevènement qui sera chargé d'organiser l'islam de France. C'est pas le plus corsophile des politiques. C'est entre autres pour protester contre les accords de Matignon qui reconnaissaient les mouvements nationalistes corses qu'il avait rendu sa démission. On ne peut pas dire quand même que l'État français mette beaucoup de bonne volonté pour apaiser les choses.
Ah oui, ça c'est clair, hein. Ça, c'est tout à fait clair. Mais après, la question, je crois, on ne va pas là aussi s'enfermer. À chaque fois, on trouve un ennemi ou la cause d'eux, c'est l'extérieur, c'est l'État français. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on doit régler à notre échelle, réellement, sans toujours penser que ça vient de l'extérieur, que ça viendrait de l'État ou que ça viendrait d'extérieur. C'est chez nous qu'on doit discuter et voir que les problèmes se posent aussi ici.
Nous n'aurons pas parlé des peurs une autre fois.
La peur, c'est ce mot qui a quand même
les peurs, et des uns et des autres,
qui ont régi les comportements. Merci à vous deux, en tout cas, Florence Antomarchi et Joseph Mestracci, d'avoir été avec nous ce soir. Je renvoie aussi aux travaux des sociologues Lisa Terrazzoni et Marie Peretti, que nous mettons en ligne sur la page de Sur la route, sur le site de France Culture. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisi au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Fréquente Samora pour son accueil. À la technique, c'était Jean-Pierre Brunini. La semaine prochaine, nous serons sur la route de Bure, dans la Meuse, où se précise le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Nous serons avec les habitants et les élus locaux. À la semaine prochaine, il est 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un Monde.